RCF. RCF, les racines du présent.
Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition des Racines du Présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Nous allons aujourd'hui nous tourner vers les temps troublés de la Révolution française. Pour ceux qui l'ont vécu, cette période a été un véritable séisme. Certains ont perçu ce tremblement de terre positivement, et d'autres, vous le savez, dans de grandes souffrances. Mais tous se sont interrogés, se sont demandé pourquoi et comment. Un ordre politique, social et religieux qui paraissait immuable, qui paraissait de toujours, eh bien, comment cet ordre avait pu basculer ainsi en l'espace de 10 petites années. Et donc c'est dans ce contexte profondément troublé, voire sidéré, sidérant et inquiet, qu'ont surgi un certain nombre de théories, dont celle-ci, dont nous allons nous préoccuper aujourd'hui. La révolution aurait été le produit d'un, voire de plusieurs complots préparés de longue date. Ainsi, nous allons voir que hier comme aujourd'hui, face à une catastrophe, qu'elle soit politique, sociale, militaire ou sanitaire, eh bien, on voit fleurir des explications souvent fantaisistes et surtout souvent fondées sur du sable. Avec notre invité historien aujourd'hui, nous allons donc scruter la fameuse main cachée, celle qui aurait conduit par des voies tortueuses à la Révolution. Edmond Dziembowski, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Donc le titre de votre livre publié aux éditions Perrin s'intitule « La main cachée, une autre histoire de la Révolution française ». Je rappelle que vous enseignez l'histoire moderne à l'Université de Franche-Comté, que par ailleurs vous êtes un spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France et de la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle. Ce sont donc ces histoires que nous allons parcourir en votre compagnie.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Aujourd'hui, les racines du présent vont parler des racines des complots, et plus particulièrement les complots durant la Révolution française. Alors Edmond Dziembowski, dans votre livre « La main cachée, une autre histoire de la Révolution française » chez Perrin, eh bien, vous nous expliquez que dès les premiers mois de 1789, la hantise du complot s'est répandue et que depuis n'a pas cessé cette sorte de passion pour les origines cachées de 1989. Comment analysez-vous cette analyse du complot qui a débuté tout de suite, dès les premiers temps de la Révolution, Edmond Dziembowski?
Tout a commencé en effet dès les premiers mois, même avant, parce que oui. certains observateurs déjà soupçonnaient qu'il se passait quelque chose d'occulte dans les événements. Oui. Mmh. Mais dès les premiers mois, et notamment dès la prise de la Bastille, on commençait à faire jour plusieurs tentatives de d'élucidation d'un événement qui, pour les observateurs, il faut toujours quand même se replacer dans ce contexte, connu dans l'histoire de très nombreuses révolutions, la Révolution française est devenue quelque chose d'assez banal. Pour les contemporains, c'est quelque chose qui n'avait jamais existé, qui n'avait pas de précédent. Autant dire que en 1788 encore, de nombreux Français s'attendent peut-être à des réformes, à des réformes de fond, pourquoi pas à une égalité devant l'impôt, mais personne n'imagine en 1788 que en l'espace de quelques semaines va disparaître tout un monde, un ordre politique, un ordre religieux, un ordre social, voire un ordre culturel. Bref, une France qui change brutalement de visage. Et forcément, certains Français se sont interrogés en se disant « ça ne peut pas être eux ».
Qu'est-ce qui se passe?
Et s'agit-il vraiment de quelque chose de finalement d'une résultante naturelle des événements politiques, eh bien, forcément confrontés à cette énigme, certains sont allés vers des hypothèses qui, quelque part, les rassuraient.
Oui, le complot rassure, on va voir ça. Ça donne des raisons à quelque chose qui paraît déraisonné, en fait.
Exactement.
Voilà.
Et c'est ce qui a sans doute porté immédiatement certains observateurs à mettre en doute ce que l'on pourrait appeler ce que nous appelons la la vulgate la vulgate historique, voilà. Si vous voulez.
La base de ce que nous croyons acquis.
Exactement.
Alors, avant d'aborder les quatre pistes que vous évoquez dans votre livre, vous évoquez quatre pistes pour expliquer la Révolution, quatre pistes, disons, complotistes, imaginaires, et on va les scruter les unes après les autres. Je voudrais quand même rappeler que la Révolution a été parcourue par des phénomènes irraisonnés. Par exemple, dès l'été 1789, la grande peur, le complot aristocratique, c'est quelque chose qui a bien existé. Edmond Jabowski.
Oui. Alors, le complot aristocratique, d'ailleurs, bon, comme l'a montré Georges Lefebvre dans un livre qui a presque 100 ans maintenant, participe également, je dirais, de cette théorie du complot. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qui s'est produit au cours de l'été, bon, avec le phénomène
l'été
de la grande peur,
oui.
l'été 89, les paysans craignaient d'abord les bandes de brigands qui allaient dévaster leurs récoltes.
Oui.
Et dans un second lieu, s'est greffé sur cette première crainte avec les débuts de la Révolution. Et là, au sein notamment des révolutionnaires, la crainte d'un complot aristocratique qui aurait visé à notamment saboter les récoltes pour
oui.
Déclencher une
répression,
une répression,
oui.
et également pour saper les bases de cette révolution qui commençait.
Voilà. Et donc l'idée, c'était que les aristos, les châtelains allaient couper ou faire couper les blés en herbe.
Exactement.
Pour affamer le peuple, quoi.
Exactement.
Et puis pour déstabiliser cette révolution.
Donc là, on est vraiment dans cette... Bon, c'est quelque chose qui n'a rien de nouveau, je dirais,
oui.
parce que là, nous sommes dans cette histoire des rumeurs, hein, des bruits.
C'est un mot qu'on va souvent prononcer durant cette conversation. Alors, je voudrais vous faire écouter une première chanson pour nous mettre dans l'ambiance. Edmond Jabowski, autour de votre livre La main cachée, une autre histoire de la Révolution française chez Perrin, puisque vous nous expliquez que l'une des premières pistes, c'est que finalement, la Révolution, ça serait tout simplement la faute à Voltaire. Alors, on va disséquer cette rumeur en votre compagnie, mais d'abord, je voudrais vous faire écouter cet extrait bien connu de la comédie musicale Les Misérables. C'est la chanson de Gavroche qui est interprétée en 1980 par Fabrice Bernard, et on va écouter donc cette fameuse faute à Voltaire.
Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Je suis tombé sur terre, même Dieu ne sait pas. Pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux de rien guenille avec un cœur gros comme ça.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et mon cœur à terre, c'est la faute à Voltaire.
Voilà, la faute à Voltaire, la faute à Rousseau, c'était un extrait de la comédie musicale Les Misérables, interprété par Fabrice Bernard en 1980. Alors, la faute à Voltaire, est-ce que c'est de la faute de Voltaire, tout ce qui nous est arrivé, à partir de 1789, Edmond Jabowski?
D'ailleurs, je pense que, en reprenant la chanson de Gavroche, je pense que Hugo fait un clin d'œil, bien entendu, à ces théories complotistes qu'il connaissait, bien
oui.
entendu.
Oui.
Et Il est certain que dès les premiers mois de la Révolution française, immédiatement, s'est établi une sorte de lien chez certains, de lien entre la philosophie des Lumières et la Révolution française.
Mmh.
Alors, si on exprime ça de manière très simple, on pourrait dire oui, pourquoi pas.
Bah oui, c'est
bien
ce que
entendu.
J'allais vous dire. C'est pas tout à fait faux quand même.
C'est pas tout à fait faux, parce que lorsqu'on regarde l'œuvre des constituants, notamment, je ne sais pas, par exemple la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, on s'aperçoit qu'il y a quand même une influence marquée des idées du XVIIIe siècle.
Voilà.
Il n'y a pas que ça d'ailleurs, il y a aussi beaucoup de l'Amérique. Mais ça, c'est notre affaire.
On y viendra tout à l'heure, oui.
Et Donc, sur ce plan-là, on pourrait dire oui, c'est tout à fait, ce serait entre guillemets la faute à Voltaire. Mais ce que l'on découvre lorsqu'on lit les documents d'époque, c'est que il y a une autre manière d'appréhender les choses. Ce n'est pas simplement les liens entre une philosophie qui progressivement se serait développée et aurait
sur le plan politique, oui.
Et il y aurait acquis un poids politique, ce que tout le monde aujourd'hui reconnaît. Notamment, il est clair qu'à la fin de l'Ancien Régime, les différents ministères qui se succèdent pendant le règne de Louis XVI sont tous imprégnés de ces idées de Voltaire et des autres philosophes.
Ces idées de liberté, d'égalité,
de
lutte contre l'absolutisme.
De lutte contre l'absolutisme, également de tolérance religieuse.
Voilà.
Faut jamais oublier aussi que, par exemple, Louis XVI revient pour la première fois sur ces droits des protestants qui avaient été abolis, bien entendu, avec l'édit de Fontainebleau, la fameuse révocation de l'édit de Nantes. Donc là, on est vraiment dans un contexte réformateur vraiment très marqué. Donc là, ce n'est pas ça que l'on découvre lorsqu'on lit justement ces réactions de cette époque. Il y a toute une littérature qui met en accusation les philosophes d'avoir sciemment organisé une conspiration de manière extrêmement rigoureuse, et que c'était une conspiration qui remonterait au moins au milieu du XVIIIe siècle, visant à abattre d'abord les bases religieuses de la France et ensuite d'abattre la monarchie, ni plus ni moins la monarchie.
On parle même de la secte des encyclopédistes.
On parle de la secte des encyclopédistes.
On voit bien cette dimension d'organisation supposée pour mettre à bas l'édifice politico-socialo-religieux.
Exactement. Et encore une fois, on pourrait dire, si l'on regarde les faits, il y a une part, je dirais, infime de vérité. C'est-à-dire que l'encyclopédie
comme
a été...
Comme souvent dans les rumeurs.
Exactement. L'encyclopédie a été une entreprise collective qui a mobilisé plus de 150 écrivains d'origines diverses, d'horizons divers. Regardez de l'extérieur, ça nous donne l'impression d'une espèce d'armée philosophique travaille de manière concertée.
Mais en fait...
En fait, aujourd'hui, tous les travaux l'ont bien montré. La philosophie des Lumières n'a jamais connu d'unité. Les philosophes, parfois, se détestaient. L'exemple le plus célèbre, bien entendu, c'est Voltaire et Rousseau.
Oui.
Et il y en a bien d'autres. L'idée d'une armée philosophique, d'une conspiration philosophique, ne tient absolument pas. Mais il n'empêche que... considéré à l'aune de ce qui s'est produit, c'est-à-dire des événements révolutionnaires, cela donne l'impression d'être totalement, d'être plausible. Et c'est ce qui explique.
Et c'est le propre des rumeurs aussi.
Le propre des rumeurs.
C'est le propre du complotisme. C'est qu'il y a toujours un fil qu'on peut tirer et qui peut faire droit à la structure organisée de cette pensée-là.
Exactement.
Qui en fait n'est pas fondée.
Exactement. Et c'est ce que l'on voit se développer dès les premiers mois de la Révolution et qui prend de plus en plus de consistance au fur et à mesure que les événements se précipitent. Et le théoricien, le plus grand théoricien, le plus célèbre en tout cas, de cette thèse du complot philosophique est l'abbé Baruel, Augustin Baruel, qui publie à partir de 1797, donc presque 10 ans après le début de la Révolution, les mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme.
Et donc, selon ses thèses, je le cite, on a vu apparaître d'abord les sophistes de l'incrédulité et de l'impiété, puis les sophistes de la rébellion, puis enfin les sophistes de l'impiété et de l'anarchie.
Exactement.
Voilà. On voit bien cette avancée dramatique aux yeux de cet auteur qui explique, qui est une clé qui explique. Mais en fait, si je reprends un autre auteur que vous citez, à propos de Voltaire, il écrit « Au premier château brûlé en 89, Voltaire eut abandonné le sien ».
Exactement.
Ça vous paraît juste ?
Tout à fait, tout à fait. Voltaire, encore aujourd'hui d'ailleurs, nous avons parfois, et on le voit très bien dans certains ouvrages de vulgarisation, on nous donne une image de Voltaire qui est quand même très éloignée de la réalité. Voltaire était un courtisan, Voltaire se sentait très très bien dans la société de l'Ancien Régime. Ouais. Il faut jamais oublier aussi que Voltaire, qu'on présente souvent comme un partisan du système politique anglais, ce qui était d'ailleurs juste, mais Voltaire était avant tout un nostalgique du siècle de Louis XIV. Lorsque Louis XV, en 1771, essaye de s'attaquer à l'opposition des parlements qui menaçaient son pouvoir, qui entre au service de la propagande monarchique, Voltaire.
Oui.
Il défend on pourrait dire un coup d'autorité qui renforce la monarchie absolue. Donc là, vous voyez, on est vraiment à l'opposé, je dirais, des idéaux de la Révolution française.
Alors, vous démontez donc cette hypothèse du complot voltairien, du complot mené depuis longtemps par la secte des encyclopédistes, et vous vous attaquez à un autre complot qui s'attaque à un fameux banquier genevois protestant. Et vous avez forgé ce néologisme, si je ne me trompe, la nécrophobie. Expliquez-nous, Edmond Dembowski.
J'ai forgé ce néologisme en regard à une expression qui était à la mode à la fin de l'Ancien Régime, c'était la nécromanie. Puisque Necker,
bien de lui qu'il s'agit.
Voilà, de Jacques Necker.
Jacques Necker
qui était ministre, donc directeur général des finances de Louis XVI, qui était genevois, qui était protestant, et qui a été ministre à plusieurs reprises et qui surtout a eu une très grande popularité dans le pays. Necker a été, bon, d'abord, a été l'un des, a été un ministre réformateur. Il a réussi, mais on verra comment, il a réussi à financer la guerre d'indépendance américaine sans créer de nouvels impôts, ce qui est miraculeux. Alors, en réalité, il l'a financé à l'aide d'emprunts et on peut bien dire que ces emprunts ont été une des causes, je dirais, de la crise financière, qui a ensuite été l'une des causes de la crise politique qui a été à l'origine de la Révolution française. Mais Necker, également, l'une des raisons de sa popularité, c'est qu'il était tout à fait conscient du poids croissant d'une entité qu'il est l'un des premiers à appeler l'opinion publique. Et c'est un, il est très moderne. Il est très moderne dans sa manière de gouverner. C'est un homme qui a très bien saisi. Et d'ailleurs, il fait à un moment une analyse qui est très intéressante où il dit voilà, il y a des corps intermédiaires, mais il n'y a pas des corps intermédiaires comme le disait Montesquieu. Il y a notamment aujourd'hui une force éminente dans le pays, c'est l'opinion publique. Et il faut absolument gouverner en tenant compte de l'opinion publique.
Ceci ressemble à la petite musique qu'on entend de nos jours, à propos de la capacité de réforme du gouvernement. L'historien que vous êtes ose faire le parallèle?
Je n'aime pas trop faire d'anachronisme parce que forcément, il y a quand même plus de 200 ans qui se sont écoulés depuis.
Mais néanmoins.
Mais il y a quand même des liens. C'est-à-dire que ce que l'on observe, vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, Necker le montre bien. Avant lui, déjà, Choiseul avait déjà compris également ça, c'est qu'on ne peut pas gouverner en étant totalement insensible aux aléas de ce que l'on appelle aujourd'hui l'opinion. Et il est vrai qu'à la fin de l'Ancien Régime, du fait de la grande du grand développement des journaux, des imprimés,
des libelles, des placards et toute cette sorte de choses qui étaient en fait les réseaux sociaux de la Révolution.
Exactement. Ouais. On ne peut pas gouverner en faisant abstraction de cela. Et il faut toujours aussi tordre le cou à une idée fausse. C'est cette idée que le pouvoir royal était totalement inconscient de ça. C'est totalement faux. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, de nombreux observateurs ont dit il faut absolument tenter justement de reprendre pied dans cette opinion. Sauf que on est dans une situation sous l'Ancien Régime qui est une situation qui est que officiellement, il n'y a pas d'opposition, puisqu'il y a une censure. En réalité, les livres circulent, les libelles circulent. Et tout ceci, eh bien... crée un climat.
Dont il faut tenir compte.
Oui.
Voilà. Alors, les opposants à Jacques Necker, et ils sont nombreux, l'ont accusé de vouloir... en quelque sorte avoir conclu un pacte avec les philosophes en vue de démonarchiser la France et d'en bannir la religion catholique. Je rappelle que Jacques Necker était étranger, protestant, banquier, genevois. Il avait tout pour être le bouc émissaire idéal, en fait, Edmond Dembowski.
Tout à fait. Et notamment, en tant que genevois, d'abord, il est bien entendu les protestants. Et Genève est considérée comme une république, ce qu'elle est d'ailleurs. Donc une république. Et forcément... encore une fois, après l'ébranlement de la Révolution française, tout s'éclaire, finalement. C'est-à-dire que là, nous avions une sorte de mouton noir qui est entré dans la bergerie de l'Ancien Régime et qui aurait tout détruit sur son passage, qui aurait tout préparé. Et c'est ce que disent certains opposants de Necker, qui affirment que Necker aurait été, en quelque sorte, l'éminence vraiment grise de ces révolutions.
Et il aurait même recouru à des méthodes discutables selon ses opposants. Je vous cite Edmond Jembowski, il aurait aggravé la disette, il aurait rassemblé des milliers d'ouvriers étrangers à Paris pour consommer en masse le pain des Parisiens.
Oui.
L'imagination n'a pas de limite.
L'imagination n'a pas de limite. Alors c'est quelque chose que l'on retrouve dans de nombreux écrits complotistes. C'est-à-dire que ces observateurs réinterprètent une réalité.
Oui.
C'était celle de la disette qui a frappé Paris et aussi d'ailleurs le reste du royaume, puisqu'il faut toujours se souvenir que l'une des causes de la Révolution française est à trouver presque jour pour jour, un an plus tôt, le 13 juillet 88, lorsqu'un orage absolument épouvantable ravage toute la moitié nord du royaume. Puisque la récolte est totalement annihilée par des grêlons de la taille d'une balle.
Il y avait déjà des phénomènes météorologiques extrêmes.
Extrêmes, totalement.
Dont il faut tenir compte dans l'histoire.
Et un an plus tard, bien entendu, le prix du blé augmente considérablement, ce qui a sans doute contribué notamment au fameux 14 juillet, où on sait très bien que, en gros, l'épisode du 14 juillet, c'est le moment où le prix du blé est à son maximum à Paris. Il y a donc un lien de cause à effet.
Déjà le pouvoir d'achat.
Quelque part, il y a de ça.
Pour en terminer avec Necker, au fond, quelle a été sa part dans le drame révolutionnaire? Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a été l'un des instigateurs ou simplement l'un des acteurs, Edmond Jembowski?
Il n'a pas été l'instigateur. Il a été en quelque sorte un acteur, mais un acteur dépassé par les événements. Necker a été rappelé au pouvoir en 1788, alors que la situation était très dégradée. Et son dernier ministère, finalement, n'est que l'ombre du ministère précédent. C'est-à-dire que Necker est totalement dépassé par les événements. Il n'a plus ce contrôle qu'il avait dans les années 1778-81, lorsqu'il était aux affaires. Mais une nouvelle fois, les vues de l'extérieur, eh bien, cette espèce d'apathie de la part de Necker a été interprétée comme, eh bien, une volonté vraiment consciente d'influer sur les faits, d'aggraver la situation, et notamment, comme on vient de le dire, Necker aurait agi de manière secrète en vue d'affamer la population en exportant pourquoi pas le blé ou encore en essayant de limiter, eh bien, l'arrivée de blé dans la capitale.
Les racines du présent. RCF.
Au micro Frédéric Mounier, nous sommes en compagnie de l'historien Edmond Jembowski à propos de son livre La main cachée, une autre histoire de la Révolution française chez Perrin, et nous essayons donc de comprendre les racines des complots, ou plutôt les racines des complotistes autour de la Révolution française. Alors nous avons déjà passé en revue deux explications complotistes de la Révolution qui sont la première, la faute à Voltaire, c'est la faute des philosophes évidemment. La deuxième, c'était la faute à Necker. On a vu que Necker avait beau être banquier, genevois et protestant, il n'était pas responsable de ce véritable séisme que fut la Révolution française. Il a plutôt été dépassé, nous dites-vous, Edmond Jembowski, par ce drame. Alors, la troisième piste d'explication mise en évidence par les complotistes, eh bien, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, la phobie antipapiste, la main des rejetons de Calvin, et c'est une affaire qui dure depuis un siècle. Je précise, Edmond Jembowski, que par ailleurs, l'une de vos spécialités en matière d'histoire, c'est l'histoire des révolutions britanniques. Alors, quel a été le rôle de nos amis d'outre-Manche dans les débuts de la Révolution française, Edmond Jembowski?
Le rôle, au tout début de la Révolution française, immédiatement, le gouvernement britannique, qui est à cette époque conduit par un jeune homme, William Pitt, hein, qui est devenu Premier ministre à l'âge de 24 ans, c'est un record qui n'a jamais été battu jusqu'à présent, en tout cas. William Pitt, qui a une petite trentaine d'années à l'époque, eh bien, l'attitude du gouvernement britannique est très nette, enfin, du moins en apparence, c'est la neutralité. Surtout ne pas se mêler des affaires françaises. Ça, c'est l'attitude officielle. Dans la réalité, et c'est ce qui nourrira très vite aussi, bien entendu, les théories complotistes, le gouvernement britannique a tout de même parfois quelques intérêts à regarder du côté de la France. Par exemple, lorsqu'il y a des tensions internationales, le gouvernement, Londres souhaite que les Français aillent, dans le sens de la politique britannique. Notamment, il y a un cas tout à fait intéressant. C'est quelques mois après le début de la Révolution, il y a des tensions entre l'Angleterre et l'Espagne pour des causes que je ne vais pas développer ici. Mais la France, à cette époque, était liée à l'Espagne par un traité qu'on appelait le pacte de famille. Ça signifiait que si jamais la guerre éclatait entre l'Angleterre et l'Espagne, la France aurait dû entrer en guerre aux côtés de l'Espagne.
Donc une situation fragile.
Une situation fragile. Que fait le gouvernement britannique ? Il n'intervient pas directement, mais il envoie sur place des agents, c'est-à-dire ce sont deux hommes qui sont très proches, des révolutionnaires. Ce sont des réformateurs anglais. Là, c'est ce qu'on appelait les radicaux en Angleterre. Et ils connaissent bien, d'ailleurs, certains révolutionnaires. Ils se font inviter au club des Jacobins. Ils se font inviter dans certains salons.
Et on les voit.
On les voit.
Cela se sait.
Cela se sait, et bien entendu, cela se sait donc dans les cercles qui déjà commençaient à incriminer la main cachée de l'Angleterre. Ouais. Et forcément, cette opération qui était assez maladroite, se retourne contre l'Angleterre.
Mais on peut peut-être rappeler deux points, c'est que le Royaume de France a été aux côtés des insurgés américains face à la monarchie britannique, et que d'autre part, comme disaient les complotistes, un peuple qui a coupé la tête à son roi en 1649 est peut-être capable des pires forfaits.
Exactement. Il y a deux... pour comprendre parce qu'il faut bien se rendre compte que dès les premiers mois de la Révolution française, de nombreux regards se tournent vers l'Angleterre. Tout le monde se dit, c'est quelque part, il y a sans doute là la main de l'Angleterre. Pourquoi ? Bon, d'abord, à cause d'un événement récent. C'est Louis XVI, en 1778, a signé un traité d'alliance avec les États-Unis qui venait de se créer à la suite d'une révolte qui s'est transformée en révolution. Alors, le traité d'alliance qu'a signé Louis XVI a signifié que le roi de France entrait en guerre pour soutenir les sujets révoltés d'un autre roi. Donc on peut très bien imaginer que si on était français à l'époque, on se dit les Anglais.
On appelle ça les co-belligérants aujourd'hui.
On est vraiment dans quelque chose qui ressemble étrangement à notre situation actuelle, exactement. Mais lorsqu'on examine ça avec l'œil des gens de 89, on se dit forcément les Anglais ont voulu se venger. Ils ont voulu se venger et notamment. Lorsqu'on sait que le premier ministre à cette époque, comme je vous l'ai dit, est William Pitt, qui est le fils d'un autre William Pitt. Le père a été l'artisan de la grandeur britannique au milieu du 18e, avec notamment les conquêtes de la guerre de 7 ans et la guerre d'indépendance américaine à laquelle dans laquelle est intervenue la France, a sapé les bases de cette puissance. Oui. Donc tout semble, entendu, aller de soi. Les puzzles de ce complot,
c'est toujours ça l'idée du complot. Tout semble aller de soi. On part de telle ou telle fête, et ensuite l'ensemble manifeste une forme de réalité alternative, comme on dit aujourd'hui. Mais alors, il faut peut-être souligner que à cette époque-là, juste avant la Révolution, on voyait en France à la fois de l'anglophobie que vous venez d'évoquer et puis de l'anglomanie aussi. C'est-à-dire que vivre à l'anglaise, ça signifiait aussi quelque chose. Oui. Edmond Jembowski.
Oui, vive à l'anglaise. Alors là, on peut retrouver Voltaire d'ailleurs, parce qu'il a été l'un des premiers propagandistes, on pourrait dire, de ce modèle anglais, et qui connaît ce modèle anglais, qui connaît une véritable mode. On peut dire qu'il y a une mode anglomane dans les dernières années de l'Ancien Régime. C'est-à-dire que c'est pas simplement une question d'ordre philosophique ou de modèle politique, mais il s'agit de s'habiller à l'anglaise, de vivre à l'anglaise, de boire du thé, etc. Bon. Nous sommes vraiment dans une anglomanie qui s'est considérablement développée et dont l'un des héros est le duc d'Orléans, Philippe duc d'Orléans. Alors je pense qu'on va y revenir tout à l'heure. Mais Philippe duc d'Orléans est un anglomane.
C'était le cousin du roi Louis XVI.
C'est le cousin de Louis XVI. Et comme on va le voir, il a été très 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 suspecté d'avoir participé à ces différents complots. Et Philippe d'Orléans incarne justement cette anglomanie. C'est vrai qu'il a de nombreux amis en Angleterre. Et par exemple, eh bien, dans les théories qui commencent à être développées dans ces années post-89, il y a celle-ci qui dit que le duc d'Orléans serait allé en Angleterre à la fin de l'année 88 pour faire transiter des masses de blé, enfin, ce qui restait du blé encore qui restait en France, vers l'Angleterre pour affamer les Français.
On voit bien ce contexte général que vous avez très précisément décrit, Edmond Jembowski, mais quelle est la part de, au fond, de la réalité de l'influence anglaise dans ce processus révolutionnaire chez nous en France ?
La part de l'influence anglaise, en tout cas pour la période qui concerne 1789-1793, je dirais, pour ainsi dire, nul. Oui. L'idée que la Révolution française a été forgée par l'Angleterre, c'est quelque chose qui relève vraiment du fantasme. Par contre, les choses évoluent à partir de la guerre. Il faut toujours bien avoir en tête que à partir donc de février 1793, la France et l'Angleterre sont en guerre. Et là, bien entendu, l'Angleterre change totalement de politique. Il s'agit de gagner cette guerre. Il s'agit de faire triompher non pas les révolutionnaires, mais il s'agit de faire triompher désormais les royalistes ou la contre-révolution.
Voilà. Et donc le soutien des royalistes.
Et c'est le soutien des royalistes.
À ce moment-là, réel, massif, financier. Et donc, ce sont les fameux débarquements, etc.
Les fameux débarquements.
Sur les côtes françaises.
Et le moment où on peut dire vraiment où il y aurait eu une main cachée de l'Angleterre, c'est au moment du Directoire, lorsque s'installe lorsque s'installe une république qu'on croit désormais être presque définitive. En tout cas, c'est là on a affaire à des institutions qui se mettent en place. Il y a des élections annuelles et les Britanniques s'efforcent de faire gagner les royalistes par le biais de la corruption, tout simplement. Là, on en a les preuves.
Les racines du présent. Frédéric Mounier.
Les racines du présent aujourd'hui, les racines de la main cachée. La main cachée, c'est le titre du livre de Edmond Jembowski, La main cachée, une autre histoire de la Révolution française, c'est chez Perrin. Et donc l'historien Edmond Jembowski, qui est en studio avec nous, nous explique, essaye de décortiquer avec nous tous ces complots, ces soi-disant complots qui auraient abouti à la Révolution. Alors, nous avons passé en revue la faute à Voltaire, c'est-à-dire ce seraient les philosophes qui auraient été à l'origine de la Révolution. C'est un tout petit peu vrai, mais complètement faux. Et puis, nous avons passé en revue aussi la personne de Jacques Necker, ce bouc émissaire idéal, puisqu'il était à la fois Premier ministre, banquier, genevois et protestant. Et on a vu que son action n'était pas aussi importante que les complotistes ont pu nous le dire. On a parlé de l'Angleterre. Et nous allons en venir à ce personnage que vous avez évoqué il y a quelques instants, Edmond Jembowski. C'est Louis-Philippe d'Orléans. Louis-Philippe d'Orléans qui aurait été le fédérateur, en fait, peut-être même l'organisateur franc-maçon qui plus est. On va voir ça dans un instant, mais avant je voudrais vous faire écouter, pour nous familiariser avec cette époque, un extrait du film de Bertrand Tavernier en 1975, Que la fête commence, qui met en scène Gaston d'Orléans, qui était donc le père, c'est bien ça, de Louis-Philippe d'Orléans. Allez, on va faire de la généalogie.
Alors attendez, c'est le c'est l'arrière-grand-père.
L'arrière-grand-père. Voilà, de Louis-Philippe d'Orléans.
Philippe d'Orléans.
Voilà. Et donc, Philippe Noiret joue donc Gaston avec... On va entendre également la voix de Jean Rochefort, le fameux abbé Dubois. Vous allez voir toute une époque, que la fête commence.
Le dimanche 1er septembre 1715, Louis XIV rend le dernier soupir. Louis XV est trop jeune pour régner. Son oncle, Philippe d'Orléans, est nommé régent.
Ah non, il se nomme lui-même régent.
Vous êtes cher, mon cousin.
Combien parmi vos parents et vos amis vous ont soutenu, à part moi, quand vous avez déchiré le testament du feu roi et pris le pouvoir?
Donnez-vous la peine d'entrer et que la fête commence!
Après des années de contrainte et d'hypocrisie bigote, c'est le règne du libertinage.
Mais en route pour la Louisiane!
Dis donc, on n'a pas commencé?
Mais j'ai payé d'avance!
L'exemple vient de haut, du régent lui-même.
Topica, il doit mieux faire l'amour que moi.
Ah oui, mais vous, vous êtes plus caressant.
Philippe le caressant.
Ah, joli nom pour un roi de France.
À ces petits soupers, on badine, on fait l'amour, on jouit. C'est un foutu bordel.
Ce n'est pas aujourd'hui que l'on verrait pareil désordre.
Le régent fait figure de diable. Son ministre, l'abbé Dubois, fait figure de démon.
Un démon qui veut devenir archevêque, normal.
Ah, écoutez-moi, cambolaille de merde. Allez!
Tu ne donnes jamais aux pauvres.
Ah non, il y en a trop.
Coléreux comme un âne rouge, blasphémateur, il a pourtant l'étoffe d'un grand homme d'État.
Ce n'est pas incompatible.
On dit que l'argent n'a pas de religion, ben c'est fou, l'argent est protestant. Et c'est pourquoi ces quatre têtes de bons catholiques vont tomber.
Quant à Philippe d'Orléans, c'est un homme assez étonnant. Il a décidé très en avance sur son temps.
Vendre des armes à certaines tribus pour en exterminer d'autres, j'appelle ça faire de la politique.
Et quel mal y a-t-il à tuer les ennemis de la religion?
Ça fermente, ça bouillonne, ça explose jusqu'au fond des provinces. Tourbillon d'événements sur fond de misère populaire. Un gentilhomme se dresse contre le régent.
Comment, mademoiselle? Vous êtes la filleule du régent?
Oui, monsieur.
Naïf et intrépide, il brandit l'étendard de la Bretagne libre.
L'opération est d'envergure.
Ben oui.
Et les Bretons dans tout ça?
Eh ben, les Bretons, ils se foutent en République.
Les autonomistes bretons? Déjà.
Vous savez bien que l'histoire se répète.
Je me demande ce qu'on pourra bien dire de nous quand nous aurons disparu. Ce qui restera de notre passage. Pour Henri III, ce sont les balles des mignons. Et pour nous, ce sont les petits soupers.
Voilà, je me demande ce qui restera de nous quand nous aurons disparu. C'est ce que disait Philippe Noiret en 1975 dans l'excellent film de Bertrand Davernier, Que la fête commence. Philippe Noiret interprétait Philippe d'Orléans, donc le régent. On a entendu l'abbé Dubois interprété par Jean Rochefort qui disait déjà « L'argent est protestant ». Et puis on nous explique, voilà, ça fermente, ça bouillonne. Alors cette dynastie des cousins des Orléans, donc il est installé au Palais Royal, le successeur Louis-Philippe d'Orléans. Quel a été son rôle dans la Révolution exactement, Edmond Dzembowski?
Il a eu un rôle d'abord d'opposant. À partir de 1787-88, quand vraiment la situation commence à devenir tendue du point de vue politique, Philippe d'Orléans, enfin Louis-Philippe Joseph d'Orléans, mm-hmm. parce que voilà ses prénoms, le duc d'Orléans se présente comme une sorte d'opposant à la manière anglaise. Encore une fois, c'est un anglomane. Donc il s'inspire beaucoup des méthodes d'action, de l'opposition en Angleterre. Ce que l'on voyait souvent en Angleterre au même moment, c'est que l'héritier la couronne, enfin lui n'est pas l'héritier bien entendu, mais quelqu'un de la famille royale souvent fédérait l'opposition. Et lui donc joue ce rôle, mais sans véritablement avoir un programme bien précis. Il s'entoure de différents personnages, par exemple quelqu'un comme un futur révolutionnaire comme Brissot par exemple, s'était rapproché du duc d'Orléans à cette époque. Alors au début de la Révolution française, par contre, il est totalement dépassé par les événements.
Oui.
Il n'a pas de prise sur le déroulement des faits. On le voit notamment lors de l'épisode du 14 juillet où il ne comprend pas ce qui se passe véritablement.
Et il n'émigre pas.
Il n'émigre
contrairement
pas
à ses cousins.
Il n'émigre pas. Et alors là, c'est vrai que c'est une énigme, Philippe d'Orléans, parce que c'est quelqu'un qui a une double facette, si vous voulez. En apparence, il apparaît comme une sorte de libertin. En ce sens, il ressemble beaucoup à son ancêtre. Mm-hmm. Un peu flasque, un peu blasé. Mais également, c'est un homme qui s'intéresse à la politique sans que l'on sache véritablement quel est son projet. Ce que l'on peut sans doute supposer, c'est qu'il aurait, bien entendu, bien aimé, sans doute, occuper la place de son cousin, mais sans qu'il ait, à un moment ou à un autre, émis vraiment clairement cette volonté.
D'accord.
Et il n'a jamais, en réalité, comploté contre son cousin. Par contre, il a sans doute quand même trempé d'une manière ou d'une autre dans les fameuses journées d'octobre 1789, vous savez, lorsque les Parisiennes sont allées à Versailles pour réclamer du pain.
Jean-Luc Mélenchon nous a rappelé récemment.
Exactement, voilà. C'est-à-dire la fameuse scène de...
La boulangère et le petit mitron.
Oui.
C'est-à-dire Marie-Antoinette et le futur Louis XVII qui ont été ramenés de force.
Qui ont été ramenés de force avec, force-violence, il ne faut jamais l'oublier.
Il y a eu des morts, juste à côté du Palais Royal. Quelle part a-t-il pris, le duc d'Orléans, dans cette affaire ?
Il aurait, et encore une fois, là on est vraiment dans les on-dit, mais des on-dit quand même qui semblent quand même assez fondés, parce qu'il y a eu même une enquête de la part de l'autorité pour savoir quelle était vraiment la part. Il aurait sans doute, parce que le Palais Royal était, je dirais, sa propriété. Mmh. Et c'est du Palais Royal qu'est parti, je dirais, cet élan qui a poussé ensuite.
Ça a été le point de départ. Les galeries du Palais Royal, c'est là que Camille Desmoulins a appelé en quelque sorte à la Révolution. Alors, il faut rappeler peut-être que le duc d'Orléans était à la tête du Grand Orient de France.
Oui.
Alors, la question de l'implication des francs-maçons dans la Révolution française. C'est un complot cousu de fil blanc, Edmond Jembowski.
C'est quelque chose qui a été qui n'est pas paru aussi rapidement dans les théories du complot par exemple le complot anglais, que les protestants, que la faute à Voltaire, etc.
Donc ça ne coulait pas de source.
Ça ne coulait peut-être pas autant de source. On le voit apparaître progressivement dans nos sources, mais c'est surtout à partir de 1797 à nouveau, avec le livre de Baruel, que là on a cette synthèse qui vise à montrer que ce que Baruel appelle le jacobinisme, et non pas le club des Jacobins. Mmh. Le jacobinisme, prend sa racine dans la franc-maçonnerie. Alors, ce qu'il appelle le jacobinisme, finalement, grosso modo, ce sont les grades supérieurs de la franc-maçonnerie. Selon l'abbé Baruel, ces grades supérieurs, dans ces grades supérieurs, les personnes qui ont été triées sur le volet deviennent sont initiées au but suprême de la franc-maçonnerie, c'est-à-dire abattre la religion, abattre la monarchie. Et
donc, ça colle, en quelque sorte.
Voilà. Donc ça colle.
Oui.
C'est-à-dire que Baruel le club des Jacobins a été créé, comme tout le monde le sait, en 89. Mais avant cela, il y avait le jacobinisme qui, Baruel va très très loin, puisqu'il remonte jusqu'aux Templiers. Il dit voilà, tout commence aux Templiers.
Avec
Jacques de Molay est mort. Les Templiers ne sont pas éteints. Ils se sont transformés en francs-maçons. Et ils ont attendu le moment idéal pour sortir de l'ombre et pour abattre la religion. Bien entendu, le pape a été responsable de la suppression des Templiers. Et bien entendu, abattre la monarchie.
Et il y a une galaxie aussi derrière tout ça, dans cette vision complotiste, il y a non seulement les francs-maçons, les templiers, mais ce que l'historien Augustin Cochin appelait les sociétés de pensée, ou bien aussi du côté de la Bavière, les Illuminaten, une sorte de société secrète que vous décrivez très 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 précisément, avec cette phrase qui, je crois, est de vous, Edmond Jembowski: l'électricité illuministe propagée par Mirabeau et Talleyrand était prête à mettre en mouvement la machine à broyer les rois, les prêtres et la société. Non, c'est pas de vous. Si. Non, c'est voilà. Je ne sais plus où est le complot. Expliquez-nous.
Exactement. Non, ce que Baruel, c'est encore lui qui nous dit ça.
Un auteur complotiste.
Alors, Baruel a vécu longtemps en Allemagne et c'est ce qui explique qu'il s'est intéressé à cette société secrète, en effet, des Illuminaten. Qu'étaient ces Illuminaten? À l'origine, ils n'ont aucun rapport avec la franc-maçonnerie. C'est une société qui vise à répandre, je dirais, l'esprit rationaliste, l'Aufklärung à l'allemande, dans la société. Et en arrivant, par exemple, eh bien, à influer sur les dirigeants, sur les innombrables princes allemands qui pourraient être, justement, initiés à ces lumières. Progressivement, ces Illuminaten également se sont infiltrés dans la franc-maçonnerie allemande. Et c'est alors que, pour Baruel, tout est clair. C'est-à-dire que pour lui, il y a d'abord la franc-maçonnerie française, mais au-delà de cela, encore au-dessus de tout cela, il y aurait ces Illuminés de Bavière qui auraient été, je dirais, le stade suprême, en quelque sorte, du complot. C'est-à-dire que pour eux, leur objectif, c'était ni plus ni moins, non pas de supprimer simplement le catholicisme et la monarchie, mais c'était également de s'en prendre à la propriété, de s'en prendre à toute forme de religion, c'est-à-dire, il nous les décrit comme une forme, je dirais, presque nihiliste, anarchique.
Voilà, c'est ça. Donc, si je vous entends bien, Edmond Jembowski, tout cela était un peu vrai, mais était loin de suffire à expliquer la tourmente qui a saisi la France à cette époque-là.
Alors, si on fait une espèce de pourcentage, je dirais, le pourcentage de véracité serait de 1%, ou peut-être de 0,5%.
Ah oui, à ce point-là.
Ah oui, à ce point-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on a un petit fragment, je dirais, de réalité sur lequel, eh bien, on a brodé considérablement et on a bâti ce que j'ai appelé le roman véridique de la Révolution française.
Les racines du présent, RCF.
Au micro, Frédéric Mounier, aujourd'hui nous auscultons les racines, peut-être du présent, en tout cas les racines des complots, les racines de la main cachée qui explique la Révolution française à travers le rôle, on l'a vu successivement, de Jacques Necker, à travers le rôle de Voltaire, de Rousseau, des philosophes, à travers le rôle des francs-maçons, du duc d'Orléans, et voire des Illuminaten, cette société secrète bavaroise. Nous sommes en compagnie de l'historien Edmond Jembowski autour de son livre « La main cachée, une autre histoire de la Révolution française », c'est publié chez Perrin. Alors, nous allons arriver bientôt au terme de cette édition des racines du présent. On peut encore passer en revue d'autres acteurs supposés cachés de la Révolution française. Et puis ensuite, on verra, si vous le voulez bien, Edmond Jembowski, on essaiera de voir les répercussions aujourd'hui, les échos aujourd'hui de ces complotismes. Alors, on a évoqué tout ce beau monde. Il nous reste les jésuites et les juifs. C'était quand même des boucs émissaires idéales à l'époque, non?
Alors les jésuites, curieusement, n'ont pas été directement mis sur la sellette. Alors peut-être s'agit-il tout simplement pour une chose, c'est que la Compagnie de Jésus a été supprimée quelques décennies plus tôt. Il y avait un grand mouvement anti-jésuitique au cours du XVIIIe siècle, mais qui a perdu de sa force au moment de la Révolution française. Quant aux juifs, alors ça, c'est vraiment très, très curieux.
Alors, c'est bouc émissaire éternel.
C'est le bouc émissaire éternel, on le voit très bien depuis le Moyen-Âge. Hein, dès que quelque chose ne va pas, lors des pestes, etc., les juifs immédiatement étaient pointés du doigt. Curieusement, dans la littérature complotiste que j'ai lue, alors peut-être que j'ai laissé passer des choses, hein, mais il me semble quand même que ce n'est pas le cas, on ne trouve pas de mention, je dirais, d'un complot juif.
C'est curieux.
C'est très curieux.
Oui.
Mais, il y a un mais tout de même,
oui.
C'est que un journal publie une lettre qui aurait été envoyée à ce fameux théoricien du complot, l'abbé Baruel, lettre d'un certain Simonini, qui explique que, voilà, d'abord Simonini félicite Baruel, dit c'est très bien ce que vous avez écrit, mais vous avez oublié quand même quelque chose, parce que au-dessus des Illuminés de Bavière, il y a pire, il y a les Juifs, et eux contrôlent la totalité de cette conspiration que vous avez si bien décrite. Et ces Juifs sont d'ailleurs maintenant, ils sont infiltrés même au sein du Vatican, ils sont partout, et ce sont eux qui auraient tout manigancé. Alors là nous sommes, vous voyez...
Ça c'est très tardif.
Voilà, nous sommes...
Voilà, c'est très longtemps. Après la Révolution.
En gros, nous sommes au début de la Troisième République, au moment où est en train de se forger ce qu'on appellera, eh bien, ce mythe du complot judéo-maçonnique.
Voilà, c'est ça. Alors justement, parlons de cette période plus récente de notre histoire que vous avez scrutée aussi sous l'angle de la main cachée. Edmond Jembowski, vous mettez en évidence sous Vichy, sous l'État français de Vichy, à l'époque de l'occupation, donc par la Wehrmacht, l'occupation de la France, vous mettez en évidence le rôle de l'historien Bernard Faye. Mmh. Bernard Faye, qui a un itinéraire assez particulier, vous allez nous en parler. Et donc, cet homme, à la Bibliothèque nationale, a fouillé les listes des archives des francs-maçons, qui étaient interdits sous Vichy, puisque les sociétés secrètes ont été dissoutes. Les fonctions publiques ont été interdites aux francs-maçons. Et donc, une partie de l'intelligentsia vichiste a souhaité faire le parallèle avec 1790. Or, il semblerait que ces recherches, en fait, ont fait chou blanc, Edmond Jembowski.
Tout à fait. Ce qui est très curieux dans l'itinéraire de Bernard Faye, c'est que cet homme a connu vraiment deux époques. C'était un universitaire extrêmement brillant, puisqu'il a été élu à l'âge de 39 ans au Collège de France, à une chaire qui était créée pour lui, la chaire, on pourrait dire, d'études américaines, où il travaillait sur l'épisode de la Révolution américaine. Et forcément, en travaillant sur l'épisode de la Révolution américaine, on est venu aussi à regarder, bien entendu, du côté de la France. Mmh. Et il a même écrit d'ailleurs un livre sur la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. On pourrait se dire, il va nous développer cette théorie. Pas du tout. Ce livre est sorti avant la Seconde Guerre mondiale et à aucun moment on n'y trouve la trace d'un éventuel complot maçonnique. Mais tout change à partir de juin 1940 lorsque Bernard Faye est nommé à la tête de la Bibliothèque nationale et qu'il exécute avec le plus grand zèle les directives de Vichy et notamment vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Mmh. Lorsque les archives maçonniques ont été saisies, il s'en empare et il s'efforce de démontrer auprès du public dans une revue qu'on appelle les documents maçonniques que finalement il y aurait une sorte de complot maçonnique qui visait à abattre la France à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et là il fait le parallèle.
Il fait le lien, oui.
Il fait le lien avec l'épisode de la Révolution. Et ce qui est très curieux, c'est lorsqu'on lit ces articles, on a l'impression que c'est l'abbé Baruel qui s'exprime. C'est exactement la même phraséologie, les mêmes mots, je dirais la même paranoïa qui ressort également de cette phraséologie.
Mais il n'a pas trouvé dans ses recherches de vraies raisons de soutenir son raisonnement.
Il n'a pas trouvé.
Voilà, c'est ça, pas plus. Alors, ce qui est frappant dans votre livre, Edmond Jembowski, dont je rappelle le titre « La main cachée, une autre histoire de la Révolution française » chez Perrin, c'est que au fond, peut-être hier comme aujourd'hui, ça c'est moi qui rajoute, mais les complotistes étaient tout, écrivez-vous, sauf des idiots encroutés dans leur stupidité ou des fous prisonniers de leurs fantasmes. C'était des gens tout à fait raisonnés, raisonnables, Edmond Jembowski.
Oui, pour l'immense majorité, oui. Pour l'immense majorité, ils étaient tout à fait raisonnables. Il y a eu certains illuminés, c'est le cas, enfin, pour reprendre le terme illuminé, mais dans l'ensemble, quelqu'un comme Baruel, par exemple, c'est un homme qui d'abord était une belle plume et qui raisonnait ordinairement en tout cas tenait un raisonnement tout à fait fondé. Par contre, lorsqu'on le voit échafauder sa théorie du triple complot, on peut se demander parfois s'il n'a pas perdu sa raison. Or, il s'avère qu'il n'en est rien. Il y a des pages de Baruel qui sont extrêmement délirantes. Hein. Mm-hmm. Il y a notamment une page que je cite où il fait intervenir Satan. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est d'ailleurs très beau, stylistiquement. On dirait quelque chose qui est sorti de la plume d'un romantique. Mm-hmm. Mais d'une manière générale, ces théoriciens du complot ne sont sûrement pas des gens qui sont simples d'esprit.
C'est ça. C'est pas des dingues pour parler français.
Non.
Voilà. Alors, il y a un autre élément d'explication que vous reprenez de la part du grand historien Marc Bloch, dont on ne relira jamais assez le fameux petit livre L'étrange défaite, qui nous propose quelques raisons d'expliquer le drame de 1939-1940, à propos des rumeurs qui avaient lieu également pendant la guerre 14-18, puisque ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que tout drame national donne lieu à des rumeurs et voire à des visions complotistes. Marc Bloch écrivait « L'erreur ne se propage, ne s'amplifie, ne vit enfin qu'à une condition, trouver dans la société où elle se répand un bouillon de culture favorable. » C'est une clé de compréhension, ça.
Ah oui.
Edmond Jembowski.
Oui. Le bouillon de culture favorable Alors, il est multiple, bien entendu, pour cette époque. Il y a d'abord, le contexte politique immédiat, hein, 1789, forcément avec des nouvelles parfois que l'on ne peut pas vérifier, oui, et qui donnent lieu, bien entendu.
Des nouvelles qui mettaient du temps à se transmettre.
Et des nouvelles qui mettaient, oui, du temps à se transmettre. Par exemple, la Grande Peur, c'est un exemple vraiment tout à fait parlant de ce qu'était la rumeur. Mmh. Mais plus largement, nous sommes aussi dans un contexte que, par exemple, l'historien Robert Danton a bien mis en valeur, c'est-à-dire que la fin de l'Ancien Régime également est marquée par un attrait vraiment très marqué pour l'occultisme, pour les sciences occultes, et plus largement, nous sommes dans cet univers qu'on pourrait qualifier de pré-romantique. Mmh. Et à mon sens, c'est un élément d'explication qu'il ne faut surtout pas négliger. Parce que on a souvent dit, oui, la France, il a fallu attendre les années 1820 pour que le romantisme s'y épanouisse. Je ne suis pas du tout d'accord.
Non, il était déjà là.
Il était déjà, oui, là. Lisons simplement les discours des révolutionnaires. Mmh. Les Girondins, par exemple, c'est du pur romantisme. Mmh. Et nous trouvons exactement, dans ces explications complotistes, nous sommes dans un roman noir à l'anglaise, là. Voilà. C'est ces romans gothiques où il y a des revenants qui apparaissent, qui disparaissent, des souterrains, des squelettes. On retrouve exactement tout ceci dans
les
la littérature complotiste.
Oui. Alors, on arrive vraiment au terme de cette passionnante conversation, Edmond Jembowski. Évidemment, vous qui êtes un spécialiste du complotisme, je ne peux pas résister à vous poser une question. Quelle a été votre lecture des complots qui ont été évoqués durant la récente pandémie? Quel a été le rôle des réseaux sociaux lorsque vous avez vu le président Macron guillotiné en effigie? Comment l'historien que vous êtes a-t-il réagi, Edmond Jembowski?
Alors c'est tout à fait curieux parce que là, en effet, on peut se demander si l'histoire ne se répète pas. En réalité, on sait très bien qu'elle ne se répète pas tout à fait. Mais il n'empêche que nous sommes dans un contexte, encore une fois, si on parle de bouillon de culture,
voilà,
pour reprendre cette expression.
Alors quel est notre bouillon de culture aujourd'hui?
Nous sommes dans un bouillon de culture qui, d'une certaine façon, peut faire penser à ce bouillon de culture de l'époque révolutionnaire. Sauf que nous ne sommes pas dans une crise, enfin, du moins je l'espère, hein, du moins, parce que qui pourrait nous mener à un nouveau 93. Mais il n'empêche que il y a aujourd'hui de plus en plus de références, par exemple à l'année 93. Il suffit de regarder les prises de position de certains membres de la France insoumise, qui explicitement revendiquent, enfin du moins,
oui,
montrent des têtes coupées.
Il faut souligner l'analogie qui est faite par votre confrère l'historien Thierry Lenz, qui est habitué de ce micro, qui récemment dans le Figaro faisait le parallèle justement entre Robespierre, Hébert et donc les révolutionnaires les plus radicaux et un certain nombre de membres de la France insoumise aujourd'hui. Est-ce que vous y trouvez un écho?
Moi, je pense que voilà ce qui se passe. C'est que nous avons, parmi les leaders, bien entendu, Jean-Luc Mélenchon, on le voit très bien, c'est un grand admirateur de Robespierre. C'est-à-dire,
oui,
que une partie, je dirais, de la culture de la culture politique et même idéologique de la France insoumise repose sur une vision qui est cette vision très, bien entendu, qui est très centrée sur l'épisode 93.
C'est ça.
Ce groupe politique est vraiment fondamental.
C'est une vision insurrectionnelle.
Vision insurrectionnelle, oui. C'est-à-dire que là, nous sommes toujours confrontés, voilà, au même problème, c'est que la Révolution française, vous savez, c'est François Furet qui a dit la Révolution française est terminée. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que,
oui,
il avait sans doute...
Elle se poursuit.
Il était vraiment optimiste. C'est-à-dire que nous avons toujours aujourd'hui deux France, ou même plusieurs France,
oui,
d'ailleurs, plus que deux.
C'est ça.
Mais je pense qu'il a toujours, c'est un événement qui divise, et c'est un événement qui reste vraiment tout à fait...
Qui reste palpitant.
Ancré, oui, dans les chairs et dans les esprits.
Voilà. Un grand merci à vous, Edmond Jembowski, pour
vous
avoir permis justement de vivre de remonter cette histoire de la main cachée, et puis d'en venir aux éventuelles mains cachées d'aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, La main cachée, une autre histoire de la Révolution française. Avec vous, nous avons pu préciser donc cette histoire des complots qui auraient été à l'origine de la Révolution française. Un grand merci à notre réalisateur Pierre Samanos. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Edmond Jembowski sur le site de RCF. Je rappelle que vous avez écrit de nombreux livres autour de nos amis d'Outre-Manche et sur l'histoire de la Grande-Bretagne, notamment une biographie des Pitts, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'ancien et le jeune. Voilà, un grand merci à vous. Vous pouvez évidemment nous écouter en balado-diffusion, en podcast, comme on dit en Angleterre, pendant que vous courez, que vous marchez, que vous allez déposer vos enfants à la crèche, que vous sortez de l'hôpital, que vous prenez le métro, que vous allez au travail, enfin bref. Vous pouvez ainsi cultiver votre esprit critique, ce qui, par les temps qui courent, est absolument indispensable. Un grand merci à vous. Un grand merci surtout pour votre fidélité. À la semaine prochaine.